J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatchez et Simon Dumas.
Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit par Zoom Thomas O. Saint-Pierre et Jean-Christophe Réel. Thomas O. Saint-Pierre est l'auteur de 4 romans et de l'essai Miley Cyrus et les malheureux du siècle. Il a pendant quelques années enseigné la philosophie au collégial. Il est désormais traducteur. Il a publié son 5e livre, Absence d'explosion, en février. Après avoir discuté d'histoire littéraire depuis les années 60 avec Jean-Pierre Masse et François Dumont, il nous tardait d'interroger quelqu'un qui questionnait notre rapport à la jeunesse contemporaine, une jeunesse qui, me semble-t-il, n'est pas aussi amorphe et apolitique qu'on l'entend souvent. Il nous semblait donc que Thomas Ouellet Saint-Pierre était l'invité par excellence pour aborder cette question avec nous, depuis la publication de son essai « Miley Cyrus et les malheureux du siècle », publié dans la collection « Documents » chez Atelier 10 en 2018. Avant toute chose, comme c'est une émission sur la poésie, j'aimerais savoir quel est ton rapport à la poésie, Thomas, en tant qu'auteur, enseignant et lecteur.
Ben, c'est certain, c'est que c'est pas un rapport d'écrivain de poésie, de poète. Je suis pas capable d'écrire ça, j'ai essayé, ça fonctionne pas. C'est peut-être parce que mon rapport à la littérature vient d'un désir d'expliquer ou de comprendre plutôt que d'évoquer. Encore là, peut-être que cette explication-là révèle ma mauvaise compréhension de la poésie. En fait, aussi qu'il y a une question de tempérament. Bref, c'est certain que je ne suis pas capable d'écrire des poèmes. Par contre, je n'établis pas nécessairement une frontière qui naît entre poésie, roman ou essai. Moi, ce que je trouve le plus puissant, c'est assez banal ce que je vais dire, mais je vais le faire quand même, ce que je trouve le plus puissant dans la littérature, c'est les images qui relèvent, disons, de la sphère poétique, ben, comme écrivain, comme romancier, comme essayiste. C'est quelque chose que je soigne beaucoup. Je pense qu'un essayiste qui réussit à mobiliser des images frappantes, évocatrices, c'est un bon essayiste, c'est un essayiste qui convainc, c'est un essayiste qui stimule l'empathie, disons, de son lecteur, qui lui permet de comprendre bien ce qu'il veut dire. Donc, pour moi, c'est quelque chose, même pas d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Cela dit, je ne sais jamais me dire poète.
J'enchaînerai dès maintenant avec ton essai Miley Cyrus et les malheureux du siècle. C'est un titre qui pique la curiosité. Rapidement, pour les gens qui nous écoutent puis qui n'auraient pas lu l'essai, j'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu cherches à explorer dans cet essai-là.
Ben, mon but, c'était de répondre aux gens qui détestent l'époque, c'est-à-dire qui considèrent que tout va très mal aujourd'hui, surtout que tout va beaucoup plus mal qu'avant, qui ont tendance, disons, à glorifier et à idéaliser le passé, puis à considérer que de nos jours, tout est de plus en plus, on est de plus en plus individualiste, les choses sont de plus en plus superficielles, les débats sont de plus en plus vides, etc., etc. On vit dans un monde de plus en plus violent. Je voulais répondre à ces gens-là, leur montrant, d'un, toute la paresse intellectuelle qu'il y avait derrière ces constats-là, j'allais dire raisonnement, mais ce n'est pas nécessairement des raisonnements, leur faire voir aussi que le passé nécessairement si glorieux que ça, puis les inviter à apprécier, à aimer ce qu'il y a d'aimable dans notre époque. Je ne prétends pas du tout qu'elle est parfaite ou même qu'elle est meilleure que les autres. Ce que je prétends, c'est que c'est impossible de comparer des époques d'une manière qualitative, de dire que l'une est meilleure que l'autre. Puis si on est pogné avec notre époque, on n'a pas d'autre tour de nous. On est là maintenant, donc il faut trouver un moyen d'aimer ça. Donc, c'est aux gens que j'appelle les modophobes, donc les gens qui détestent le présent, qui détestent la période contemporaine, que je m'adressais pour leur dire « Calmez-vous, là, prenez 2 secondes, réfléchissez-y. Il y a des choses quand même à relativiser dans votre discours. »
The fatal problem with poetry, poems. This helps explain why poets themselves celebrate poets who renounce writing. In college, at the end of the last millennium, the coolest young poets I knew were reading Rimbaud and Oppen, two very great and very different writers who had in common their abandonment of the art. Because I am not silent, Oppen wrote in a poem, the poems are bad.
Dans l'essai The Hatred of Poetry, l'essai qui est l'inspiration de notre émission de radio, Ben Lerner avance une thèse du même genre. Il affirme que le meilleur poète est celui qui n'écrit pas, qui n'écrit plus, enfin celui qui renonce à l'écriture, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait qui vient d'être lu. Quand Oppen dit « Parce que je ne suis pas silencieux, mes poèmes sont mauvais », je le vois comme une façon de dire qu'il se compromet sans cesse à l'échec ou aux critiques, puisqu'il écrit dans le présent. C'est un fait que l'on peut voir, il me semble, lorsqu'on idéalise le passé, lorsqu'on idéalise ce qui a été fait.
Je pense que Lerner associe la poésie à l'enfance. Et puis je pense que quand il dit le meilleur poète, parce que là on est à la fin du livre, puis quand il dit que le meilleur poète est celui qui cesse d'écrire, il dit le poète qu'on admire le plus. Les poètes qu'on admire le plus sont généralement ceux qui ont arrêté d'écrire. C'est que moi j'ai l'impression, peut-être qu'il trouve que plutôt que de tenter en vain de retrouver une sorte d'innocence, un rapport innocent au langage, un rapport de découverte, qu'on est mieux de cesser d'écrire et tomber dans l'autre champ, dans le champ adulte du rapport au langage.
Ben, je pense que le tout processus, en tout cas dans le cas de mon livre, ce que j'avançais entre autres, une des causes de la modophobie, c'est que pour idéaliser le passé, on a besoin de cette distance-là. Donc, on a besoin que le passé soit loin, on a besoin de mal le connaître, en quelque sorte, pour s'imaginer qu'il était mieux que les problèmes qu'on voit devant. Dans le cas de Rimbaud, je pense qu'effectivement, le fait qu'il ait pu écrire, sans doute aussi l'espèce de romantisme de sa biographie, qui se fait vraiment jeune après avoir complètement gagné la plaisir, tout ça, effectivement, nourrit une idéalisation que peut-être son œuvre ne mérite pas nécessairement. Bon, je pense qu'il y a ça dans la modophobie. Et comme tu le disais, c'est quelque chose qui n'est pas, en un sens, la haine du contemporain n'est pas contemporain, n'est pas propre à notre époque. Je parle entre autres des rapports entre les générations dans mon livre. Ça, c'est un classique, parce que les générations plus vieilles trouvent que les générations plus jeunes sont paresseuses, n'ont pas les bonnes valeurs, s'impliquent pas politiquement, s'impliquent pas dans les bons combats. Donc, ça s'exprime de mille manières. J'essayais pas, en un sens, ce que je décris. Et pas propre à notre époque. Donc, déjà, cette idée de considérer que notre époque est si particulière est peut-être problématique. Je pense qu'on le voit bien, on voit bien ce réflexe-là de nos jours. On est en pleine pandémie. Je ne veux pas du tout minimiser l'importance de cet événement-là du point de vue de santé, mais à nous entendre, c'est une crise sans précédent, inédite, c'est vraiment un fléau biblique. Alors qu'il me semble qu'au contraire, si on est pour vivre dans une pandémie épouvantable, aussi bien arrive en 2020, parce qu'on est beaucoup mieux outillé, c'est le bon mot pour faire ça. Toutes les autres pandémies qui ont eu lieu auparavant m'ont l'air bien pire. Mais dans le discours, là, non, c'est vraiment une immense fatalité parce qu'il faut faire des entrevues sur Zoom.
J'aimerais ça peut-être rebondir, si possible, sur le meilleur poète et celui qui n'écrit pas ou qui n'écrit plus. Je trouvais ça quand même intéressant parce que dans le fond, c'est pas totalement faux. Parce que, bon, un poète qui n'écrit pas ne fait plus d'erreurs, en fait. Moi, j'ai réalisé que je fais souvent des fautes dans mes textes. Je pense que je fais des fautes parce que j'écris. Puis celui qui n'écrit plus, ben, je pense qu'il fait plus de fautes. Hein. Non, c'est clair que c'est. Ben, je pense que je sais pas s'il a dit ça à la blague ou il l'a écrit à la blague ou je sais pas c'est quoi ça. Sa pensée fondamentale par rapport à ça, mais je trouvais ça quand même comique. C'est sûr que dès qu'on se commet dans la création, il va y avoir des trucs très mauvais, il va y avoir des trucs peut-être corrects, bons ou whatever, mais c'est moi dans mon cas, je sais pas. Je vais peut-être avoir dans ma vie écrit un ou deux trucs corrects ou passables dans l'histoire, mais c'est ça, c'est de l'essai-erreur, je pense. Puis celui qui ne sait pas, il écrit juste pas, je pense.
Aimerais-tu rebondir là-dessus, Thomas?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Christophe disait. Moi-même, comme écrivain, je souffre beaucoup des défauts qui me semblent inséparables de ce que je fais. Donc, je comprends. comprend l'idéal, en fait, l'idéal de l'espèce d'écrivain qui remarche le même texte pendant, je sais pas, 25 ans, puis après le publie juste avant sa mort tragique dans un accident d'hélicoptère. Le texte est parfait, il n'y a pas une virgule de trop. Je trouve ça super aussi. Mais moi, c'est tellement pas mon rapport à l'écriture. Je suis pas capable de ne pas capitaliser sur mes idées, même si elles sont pas nécessairement bonnes. Puis, une fois que j'ai travaillé un certain temps dessus, je constate que le livre est prêt quand je suis plus capable de le tolérer. Donc, l'idée et l'idée de me taire et l'idée de travailler des décennies sur un même texte me semblent toutes les deux impossibles, même si je vois bien que je suis probablement ça serait meilleur si j'avais pas écrit cinq livres, si j'en avais écrit un en 10 ans. C'est le condensé de toutes ces années-là. Mais malheureusement,
Moi, j'aurais une question pour toi, Thomas. Est-ce qu'il y avait un rapport à l'écriture d'avant l'essai pour toi? Ou tu as tout de suite commencé avec l'essai?
Non, je me considère pas du tout comme essayiste. Sinon, parce que j'ai écrit un essai. Mais dans ma tête, moi, je me conçois comme un romancier. Puis j'ai écrit un essai parce que j'ai eu une idée dont j'avais l'impression qu'elle était originale, que personne ne défendait cette idée-là. Donc, je l'ai écrit, mais ça a été extraordinairement pénible d'écrire un essai. Alors que pour moi, la fiction vient très, très naturellement. Là, ça a été très difficile parce qu'il fallait que ce que je dise ait un peu de bon sens. En fiction, n'importe quel personnage est susceptible de penser n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Il peut y arriver à peu près n'importe quoi pour rester dans une certaine vraisemblance. Mais même là, très bien faire le pari comme romancier de ne pas être vraisemblable. Alors que là, c'est ça, j'essayais de dire à tout le monde qu'il avait tort. Et j'ai vraisemblablement pas assez de connaissances pour faire ça. Donc, je suis toujours un peu torturé entre mon désir de faire valoir cette idée-là puis mon sentiment de mon incompétence à la défendre parfaitement. Donc, ça a été assez pénible, en fait, même si c'est seulement 100 pages, donc tout ce que c'est. Donc, pour répondre directement à ta question, oui, il y a eu un... Non, je ne suis pas arrivé directement à l'essai, mais il y a eu une espèce d'après. Je pense que comme écrivain, j'ai appris des choses. Disons, avec cette exigence d'exactitude, de rigueur, de probité, de pas dire n'importe quoi. Ça a été difficile, mais c'est con.
Plus tôt, tu disais que tu t'étais essayé à la poésie puis que ça n'avait pas fonctionné. À ce moment-là, c'est par rapport à la fiction, là, tu sais que... C'est quoi les modalités différentes entre ce que tu considères être l'écriture de la poésie puis ce qui est l'écriture de la fiction?
Ben, je ne sais pas si ce que je considère être la poésie est une bonne compréhension de la poésie, mais moi, j'aime cette idée de je trouve ça cool, un poème, c'est de avec peu de mots, d'évoquer plein de choses. Hein? Il y a une espèce de jeu d'imprécision et de précision où l'image te fait comprendre quelque chose, tu te places directement dans un moment, là c'est super fort, mais en même temps, quand juste les mots sont pas nécessairement précis, on n'est pas dans un lieu précis. Enfin bref, ce flou-là me fascine, mais moi, dans mon écriture de fiction, je chasse le flou, j'écris pour comprendre comment mes personnages, pourquoi mes personnages agissent de la manière dont ils agissent, et je veux toujours comprendre davantage. Mon acte d'écrire, en guillemets, c'est vraiment celui de creuser toujours, de trouver ce qui est plus précis, ce qui est le plus juste, de toujours arracher une couche pour aller vraiment à l'essentiel de la compréhension. Puis je réussis pas, évidemment, mais c'est ça que j'essaie de faire. Puis ça me semble, d'une certaine manière, en poétique, en tout cas, je sais pas quand j'ai effectivement essayé de réaliser ça, d'écrire un poème que je trouve cool. Il y a trop de mots qui viennent, j'explique, je situe, il y a trop, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas.
Jean-Christophe, aimerais-tu rebondir là-dessus?
Écoute, moi, je trouve que c'est une belle réponse, mais je ne sais pas, je fais des parallèles quand même avec ce que tu as dit. Moi, pour moi, le roman, je compare toujours ça à une espèce de cheval ou une grosse vache dans un pré, là, qui boute l'herbe, il y a de la chair, il y a du poil, c'est comme... Puis le roman, c'est exactement la même affaire. Tu sais, c'est un développement de personnages, 100, 200, 300, 400 pages, que des personnages que tu développes, c'est une histoire que tu développes. Puis la poésie, j'ai toujours comparé à une espèce de moelle osseuse dans l'os du sentiment. En fait, c'est un peu ce que c'est bizarre parce que tu as résumé un peu comme ce que je décris la poésie. En fait, c'est d'aller au centre de l'émotion, puis au centre du sentiment ultime, de l'intime, pour refaire ressurgir le poème, le mot, le bon vers pour décliquer ton idée sur le poème. Parce que pour moi, un bon poème, ben ça commence bien, mais ça se finit bien aussi. Il faut qu'il y ait une loupe. Puis je pense que les meilleurs poèmes que j'ai écrits, ben ils réussissent à bien se terminer, puis à boucler la boucle. Puis ils laissent pas un plan, une espèce de. Parce qu'un beau vers dans un poème, c'est beau, mais qu'est-ce que ça dit ce vers-là? À qui tu t'adresses? À qui tu parles, à qui tu veux parler en écrivant. Moi, je pense que c'est une belle compréhension de la poésie, en fait. Moi, je t'inviterais à retenter l'expérience. Reste à savoir, bon, si tu veux t'y mettre, mais effectivement, c'est la poésie, c'est ça. Des bons poèmes, je pense qu'il faut que tu plonges dans tes tripes et dans ton cœur pour faire résulter le meilleur résultat. Mais moi, je pense que tu aurais les tripes pour faire ça. En tout cas,
mais pour revenir sur ce que tu disais à ton premier, c'est tes images de la vache et de la moelle pour décrire la poésie. C'est comme si, moi, pour me rendre à la moelle, il faut que je décrive toute la vache. Et une fois que j'ai décrit la vache, je veux pas l'acheter à la poubelle juste pour avoir la moelle. Je me lève, j'ai 250 pages. C'est pas trop vidange pour avoir juste deux phrases qui sont bonnes.
Mais peut-être que
je devrais. Mais je suis pas capable.
Jean-Christophe, je suis curieuse. Comment envisageais-tu ta démarche d'écriture pour ton livre « Ce qu'on respire sur ta twin » Il est classé comme une sorte de roman poétique. Étais-tu parti sur l'idée d'écrire plus un roman ou un long poème narratif ou rien de tout ça?
Je pense que c'est un roman poétique. On pourrait résumer ça comme ça, c'est-à-dire que c'est des petites phrases courtes. Le roman a commencé avec une nouvelle au début. C'est les premières pages... J'ai écrit ça, je pense que au départ, dans le roman, le personnage est dans un parc. Puis dans le fond, ma nouvelle, c'était de A à Z, il était dans le parc, puis ça finissait comme ça. Puis là, j'ai lu ça, puis je me disais, je pourrais peut-être creuser, il dit, qu'est-ce qu'il fait après le parc? Il pourrait rentrer chez lui en appartement, puis il pourrait. Fait que j'ai développé ce truc-là, puis ça a fait un roman au bout de quelques mois. Mais c'est clair que l'écriture de mon roman, parce que ma pratique poétique a influencé l'écriture de mon roman, ça c'est indéniable. Maintenant, j'essaie de plus en plus de m'éloigner. Tu sais, comme là, j'écris un deuxième roman, puis je m'éloigne un peu plus de ça. De cet aspect, plus peut-être des petites phrases poétiques qui sortent de nulle part, là, qui font comme... ça, je m'en éloigne pour entrer dans d'autres sujets. Puis ce que j'aime aussi avec le roman, c'est précisément ça, c'est que ça me permet de m'évader complètement hors de moi, puis de faire des recherches. Puis le roman me permet de faire des recherches, tu sais, comme là, je vais vous décrire mon autrement, mais tu sais, je parle de schizophrénie, je parle de cancer du cerveau, je parle de... Puis ça, c'est des sujets que je ne connais pas du tout, puis il faut que je me renseigne pour que ce soit crédible. Puis fait que je fais beaucoup de recherches, contrairement à la poésie où bon, mes recherches, j'en fais, c'est mon intime. Quoique là, je vais commencer un autre truc dans le devoir, puis ça va être une espèce de docu-poésie, c'est-à-dire que je vais, un peu comme j'ai fait à Plomb-et-Tout-Plomb-et-Tout quand j'ai interrogé les Australiens quand il y a eu les feux en Australie, j'ai fait parler les gens, mais dans mon poème. Ça, je vais commencer à intégrer ça. Comme là, il y en a la semaine prochaine qui va sortir, une nouvelle série dans la peau. Là. Puis là, comme hier, je me suis entretenu avec un joueur de football universitaire pour qu'il me parle de sa perception de la pandémie et tout. Puis je le mets dans un poème. Fait que tout pour dire que c'est pas vrai que en poésie, il n'y a pas de recherche. Bon. Mais tout pour dire que non, ben le roman, oui, c'est ça, c'est indéniable que ça la poésie a affecté ou a influencé le contenu du roman. Son style, mais j'essaie de me réinventer le plus possible. J'essaie de ne pas stagner. C'est difficile, mais c'est ça. Puis je ne sais pas encore là, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si ça va te planter, je ne sais pas si ça va être bon, je ne sais pas si ça va être. Ça fait peut-être 5 romans que j'écris depuis Tatooine. Peut-être 50, 100 pages pour chaque roman, puis que je jette à poubelle parce que je ne sens pas l'idée. Parce que finalement, je réalise que c'est pas bon, c'est mauvais. puis je recommence à passer ça tout le temps, comme ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, ça éclore, ça éclore, puis ça, bref.
Moi, je me demandais, Thomas, ton choix s'est arrêté sur Jean-Christophe comme poète invité. Je me demandais si tu pouvais nous expliquer ce choix.
Mais il m'a déjà demandé de l'expliquer lui-même, puis j'avais pas une très bonne réponse. C'est juste que j'aime ce qu'il fait. J'ai pas beaucoup de poésie, même si je le dis tantôt, ça m'attire, ça m'intrigue. Puis ça m'accroche. Puis, je pense que il y a pas de autant en littérature qu'en poésie, mais particulièrement en poésie, il n'y a pas de recette parfaite. C'est vraiment des fois ça te rejoint, des fois ça te rejoint pas. Puis c'est drôle, tu parlais tantôt de mon Dieu, le poète franco-ontarien. Et je trouve que le parallèle est super bon. Peut-être que c'est justement un peu cliché, mais une poésie du quotidien, ça nous rejoint immédiatement. Il y a autant, je parlais tout à l'heure de précision et d'imprécision, autant il y a des moments qui nous ramènent dans notre vie de tous les jours, mais autant si on s'en dégage. Bref, c'est juste que je trouve ça bon. Voilà.
Ah, t'es gentil, merci.
Jean-Christophe Réel est poète et romancier. En poésie, il a publié 5 recueils, dont La fatigue des fruits chez Éloi de Cravant et La douleur du verre d'eau aux éditions de l'Écrou. Il a également fait paraître Ce qu'on respire sur Tatooine chez Del Busso. Grâce à ce livre, il a été sacré lauréat du prix littéraire des collégiens. À l'automne 2019, il publie Peigne le feu à la courte échelle, un recueil de poésie jeunesse. Vous l'entendrez maintenant interpréter un texte dans la peau de publié dans le journal Le Devoir du 24 octobre.
Ça finit-tu de même pour vrai? Mon premier automne sans football depuis mes 9 ans. Les mauvaises nouvelles, le nombre de cas qui augmente. La deuxième vague de la COVID. Je la sentais venir. Toutes les conférences qui se sont annulées les unes après les autres en même temps que le championnat canadien. J'ai traversé le mur de la cuisine avec mon poing. J'ai mis un poster de Scarface pour cacher le trou. Je m'ennuie des gars. Mon pouls, c'est le football, c'est toute ma vie, la seule manière d'aller à l'université, devenir un joueur de football universitaire, s'entraîner 9 mois pour jouer 3 mois, s'aimer 1 mois, s'oublier 12 mois, aller au cimetière toutes les semaines pour voir mon père, je me souviens de sa moustache brune, je me souviens quand il me lançait le ballon au parc. J'étais jeune, j'avais 7 ans, j'attrapais déjà les ballons de foot. Je me souviens du bruit de la vaisselle, je me souviens du visage de mon père sur le plancher de la cuisine, je me souviens des ambulanciers et de la main chaude de l'ambulancière sur mon front. Je me souviens de ma famille d'accueil, je me souviens des batailles dans la cour d'école, je me souviens à 17 ans, je suis étendu sur le terrain pendant un entraînement. Je suis blessé au genou. Je me souviens de la main droite de mon secondaire qui me touche le front et de sa prière pour essayer de guérir mon genou. Hier, j'ai eu 23 ans. Il me reste seulement 2 saisons, 2 chances de prouver mon talent aux recruteurs. Je pense à mes coachs. Ils mettent les bouchées doubles pour me garder motivé. L'un de mes entraîneurs m'a appelé hier. Il m'a dit « Lâche pas, continue de t'entraîner. Pense à 2021. » Je prends mon vélo, je me rends au terrain, je grimpe la clôture, tout est barré, je suis seul, je cours, je fais des workouts sans poids. Je m'ennuie des gars, on change bientôt l'heure. Les feuilles mortes collaient à mes lacets. Ma blonde me joue dans les cheveux. Je pense à mon plan A, mon plan B, je suis au plan V. J'étudie comme un fou pour avoir des bonnes notes. Je t'aime comme un fou pour sentir encore tes doigts dans mes cheveux. Je fais la lessive et l'épicerie, j'achète encore trop de thon. Les coupons rabais en moton dans mes poches. Je t'achète un collier avec ton prénom dessus. T'es tellement contente. On roule avec le vieux char de ta mère. On ne s'arrête pas. On s'arrêtera à 80 ans dans l'hospice. Tu m'appelleras encore Tom Brady en riant dans nos fauteuils roulants. Je te promets de te faire à souper. Ton plat préféré. On va manger dans nos plus belles assiettes, les bleus. Je suis là, coach. Je suis prêt, coach. Je vois plus le bout du tunnel, coach. Quand je joue au football, je suis dans le flow. Est-ce que tu sais c'est quoi le flow? Non, c'est quoi? C'est quand t'es submergé par ta tâche. Tu y penses tellement que tu n'y penses plus.
Maintenant, Thomas, depuis ton essai Miley Cyrus et les malheureux du siècle, tu as publié un autre roman. Je me demandais justement, est-ce que ta démarche essayistique a pu imprégner l'écriture de ton dernier roman? Peut-être que tu as pu remarquer, comme tu as écrit en fait d'autres romans avant l'essai, puis ce roman-là après.
J'en ai publié deux, en fait, depuis. Et il y en a un qui était la même année, donc je te pardonne de la confusion. Peut-être, je m'étais jamais posé la question. Mais c'est vrai que mes deux derniers romans laissaient beaucoup de place à l'essai. Donc, dans les deux cas, il y avait des chapitres qui étaient carrément des essais. Peut-être qu'effectivement, je me suis senti peut-être plus libéré d'affirmer des choses, de sortir davantage du cadre de la fiction. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Moi, j'aime ça, les romanciers qui réfléchissent, qui incluent des passages plus philosophiques. Je me dis toujours que ce que j'aime de la philo, c'est la littérature. Ce que j'aime de la littérature, c'est la philo. Donc, je suis un peu au croisement de ces deux mouvements-là. Donc, je ne sais pas si l'essai a libéré en moi ça, mais c'est vrai que depuis, les deux livres que j'ai publiés étaient beaucoup plus essai-éveillés.
Thomas, dans ton essai, tu nous parles de culture populaire. Tu en parles comme une mal-aimée dans notre société. En effet, tu écris que le succès commercial d'un ou d'une artiste n'est pas vraiment vu comme étant sophistiqué. Je me demandais donc, en fait, tant toi, Thomas, que Jean-Christophe, quel était votre rapport à la culture populaire en tant qu'artiste, mais aussi en tant que consommateur d'art?
Moi, ça me stimule. J'aimais ça, l'idée d'écrire un livre qui était au fond une réflexion philosophique, entre guillemets, mais qui s'appuyait, qui était complètement structuré sur la figure de Miley Cyrus, qui est très peu philosophique. Puis en même temps, j'aimais ça qu'il y ait des références à Proust, à Tolstoï et à Rousseau dans mon livre. Donc, de jumeler les deux, moi, ça me semble naturel. Les deux apportent quelque chose d'intéressant. Les deux apportent une matière à réflexion qui est pertinente. Donc, j'aime ça m'inspirer de l'auteur classique parce qu'ils ont une perspective particulière. Mais en même temps, je veux pas qu'on se prive de s'intéresser à des phénomènes culturels qui fascinent des millions de personnes. Et clairement, ces phénomènes-là disent quelque chose. Ils plaisent, ils attirent quelque chose en nous. C'est pertinent d'analyser. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de s'en priver. Même au contraire, c'est super stimulant.
Je suis totalement d'accord avec ça. Regarde, moi, j'ai hâte que la saison 2 de Mandalorian sorte sur Disney. J'écoute Rihanna. C'est clair que ça influence ma pratique artistique. Puis, tu sais, avec mon dernier livre, avec Peigne et le feu, la courte échelle, la jeunesse, j'aborde souvent la plateforme YouTube puis la musique hip-hop pour essayer de faire accrocher les jeunes, pour donner des références qu'ils comprennent puis qu'ils consomment dans la vie tous les jours. Puis je pense que c'est important. C'est la façon que j'ai faite à date d'aborder mes projets. En même temps, je pense que j'ai reçu une critique qui justement trouvait que dans ta tune, il y avait trop de références à la culture populaire. Je sais que c'est bon, c'est pas bon, je sais pas. C'est ce que je fais. Je parle de ce que je vis. Je parle de ce qu'on pourrait vivre dans notre génération. Puis je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est mauvais, mais je le fais, c'est mon angle, puis je l'assume comme ça.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.